Lanza del Vasto 1901-1981, poète mystique et visionnaire. Nous vous proposons d'entendre la première partie de l'intervention de Daniel Vigne, président de l'Association des Amis de Lanza del Vasto, professeur à l'Institut catholique de Toulouse. Cette conférence a été enregistrée à l'abbaye de Belloc le 25 juin 2011. Voici donc la première partie de l'intervention de Daniel Vigne qui nous parle de ce disciple chrétien de Gandhi qui fut apôtre de la non-violence en Occident.
Merci à vous, frère Jean-François. Merci au Père Abbé aussi de m'accueillir, de m'avoir invité dans cette abbaye de Belloc où j'ai appris ce matin même que Lanza del Vasto est venu il y a peut-être 35 ans. On n'a pas réussi à me préciser la date. Donc, il y a comme un passé à raviver dans cette maison, une présence, une mémoire à entretenir, et je le fais vraiment avec bonheur. J'ai connu Lanza del Vasto, il est mort il y a exactement 30 ans, j'étais donc jeune, mais je me suis attaché plusieurs années à lire ses livres et écouter ses enseignements, sans avoir été membre de sa communauté. Et depuis ces années-là, je garde au cœur comme une dette, comme le sentiment d'une gratitude immense qui m'a amené, il y a quelques années, à soutenir une thèse de doctorat en philosophie sur sa pensée, que j'ai soutenue à la Sorbonne. Et plus spécialement depuis 2 ans, qui m'amène à, dans le cadre de l'association des Amis de Lanza del Vasto que je préside, à essayer de relancer l'intérêt pour cet homme immense, faire connaître non seulement sa figure, son l'être, la personne, mais son message et l'héritage que nous pouvons recueillir de lui, même sans l'avoir connu personnellement. Alors, le titre de cette conférence, vous le savez, était « Lanza del Vasto, poète et visionnaire ». Il y a dans ce titre évidemment une allusion au contenu de l'exposition que vous pourrez découvrir tout à l'heure, puisque en tant que visionnaire, Lanza nous a laissé des dessins. Ils sont présentés ici, c'est un choix. Ce sont des dessins plutôt à caractère biblique, évangélique. En fait, le parcours même de l'exposition vous permet en quelque sorte de retrouver les grandes étapes de l'histoire du salut, ou plutôt de la vie du Christ. Voilà pour le visionnaire, et je crois que vous serez d'accord avec moi, et avec les quelques personnes qui ont déjà visité l'exposition, pour reconnaître que le tracé de cet homme a quelque chose, effectivement, d'inoubliable. Et puis, poète. Et vous trouverez aussi dans cette exposition quelques poèmes, trop peu bien sûr, mais calligraphiés, c'est-à-dire écrits de sa main, ainsi qu'une présentation très sommaire, mais de son recueil principal, qui s'appelle « Le chiffre des choses », je l'ai apporté ici. Voilà, et puis quelques indications. Il y a une résonance évidemment entre l'aspect poétique et l'aspect graphique, mais autour de cela, il y a une œuvre immense que je voudrais prendre le temps de vous faire découvrir, et une œuvre dont les multiples facettes sont elles-mêmes en écho, se réverbèrent pour ainsi dire les unes dans les autres. Et c'est peut-être la chose la plus importante à retenir, c'est que chez Lanza del Vasto, tout se tient. Comme d'ailleurs pour lui, dans le monde, dans l'univers, tout se tient. Et chaque aspect de la réalité renvoie aux autres, l'éclaire sur un autre plan, dans une sorte de symphonie, d'harmonie de l'être et des êtres. Et bien cette intuition qui est vraiment le cœur de sa pensée, j'essaierai de vous en parler tout à l'heure, elle se retrouve aussi dans la polyvalence de son talent et le côté, oui, polymorphe de son œuvre. Il est écrivain, Il est homme d'action. Il est poète, il est musicien, il est dessinateur, il est sculpteur, il est romancier à certains égards, il est homme de théâtre, il est disciple de Gandhi, nous allons en parler, il est fondateur de communautés, il est chrétien et catholique convaincu, et en même temps ouvert à la richesse merveilleuse d'autres traditions, d'autres religions. Il est critique à l'égard de la société, de son temps, de son siècle. Il l'est de façon sévère, et ses dessins ont quelque chose d'austère. Mais en même temps, il est porteur d'une proposition, d'un effort et d'un espoir de renouveau, de changement de civilisation. Donc, chez lui, les contraires et les divers aussi se rencontrent et se côtoient, mais sans qu'il soit pour autant un homme en morceaux, si j'ose dire, et dispersé entre toutes les palettes de son talent. Il est en quête d'unité, ce n'est pas facile à obtenir. Il disait lui-même qu'il a dû travailler sur lui-même pour unifier cette personnalité riche et pour trouver le centre de gravité de sa vocation, de sa mission. Mais à l'arrivée, et dans ce que l'histoire nous lègue de ce personnage, eh bien on ne peut pas ne pas constater que, de fait, il y a une harmonie étonnante. Si j'osais le comparer à des philosophes du siècle, pas de la même époque, qui se sont taillés une belle célébrité par la puissance de leur intelligence ou par le courage de leur position, eh bien, on devrait constater, et on le ferait assez facilement, que certes, ces gens-là étaient très doués, très, très brillants sur tel plan, mais que par ailleurs, eh bien, on ne peut pas trouver chez eux, par exemple, de talent artistique ou de courage politique ou de sens du concret. Voilà. Alors que Lanza del Vasto, à sa manière et à sa mesure, bien sûr, mais tenter de tenir ensemble tous les fils de la tresse, n'est-ce pas, tous les aspects de l'existence humaine. Et j'aime à le présenter, comme je le fais maintenant, tout de suite, comme un être en quête d'unité, de complétude, ne laissant de côté aucun aspect, effectivement, de ce qu'est l'homme. « Je suis homme », disait Terence, « et rien de ce qui est humain ne m'est étranger. » Lanza del Vasto est de ces hommes rares, en qui, et c'est sans doute pour ça qu'il attirait tant de monde, et des gens très divers, en qui nous retrouvons comme une part de nous-mêmes, en même temps que, bien sûr, nous découvrons une grandeur, et j'ose le dire, un génie. Mais c'est pas le tout de le dire, allons y voir de plus près. Je vous propose de suivre tout simplement le titre de cet entretien en trois points. Lanza del Vasto, je voudrais vous parler de lui, vous raconter un peu sa vie. Poète, mais j'essaierai de vous préciser en quel sens, dans cette deuxième partie, j'entends ce mot et quelle profondeur je lui donne. Et enfin, visionnaire, et dans le prolongement de l'aspect poétique, et comme en le faisant s'épanouir, cet aspect poétique, dans une dimension prophétique. Parlons donc d'abord de Lanza, Giuseppe Giovanni Lanza di Trabia, selon l'intitulé, pas tout à fait complet en vérité, de son nom, dont vous devinez le caractère aristocratique. Lanza était fils et héritier d'une très longue et haute lignée princière. Son nom d'auteur, d'ailleurs, Del Vasto, lui vient d'un de ses ancêtres. Il naît dans le sud de l'Italie, dans une petite ville qui s'appelle San Vito dei Normanni, qui est aujourd'hui très fier, n'est-ce pas, d'avoir donné naissance à ce grand homme. Et il habite à quelques kilomètres de la ville même, dans une maison que j'ai eu aussi la joie de visiter, qui est toujours debout, qui est même en train d'être restaurée, qui s'appelle Specchia di Mare, et de fait on voit à l'horizon la Méditerranée. Si j'insiste sur cette localisation géographique, c'est parce qu'elle nous éclaire, c'est le cas de le dire, sur une partie de sa personnalité. Lanza a grandi dans, je dirais, l'atmosphère de cette lumière méditerranéenne forte. Des oliviers entourent la maison, des oliviers plus que centenaires, n'est-ce pas, au tronc énorme. Et de fait, le contraste fort entre cette lumière chaude, cette lumière dense, et puis la sécheresse du sol, la verdeur des oliviers, tout cela laisse deviner, et on sait d'ailleurs, puisque Lanza en a parlé lui-même, que dès l'enfance, il a eu comme une illumination, n'ayons pas peur du mot, une intuition, une révélation de la lumière. Je vous laisse découvrir les premiers textes de son viatique, qui est en quelque sorte ses mémoires, et dans lesquels il raconte effectivement que tout jeune et même enfant, il a vu les choses un peu comme on les voit lorsqu'on plisse les yeux, n'est-ce pas, par une chaude journée de soleil. On voit toutes choses rayonner en quelque sorte de fils de lumière. Eh bien, cette impression sensible est chez lui en même temps une intuition intellectuelle, une sorte de révélation métaphysique. Tout est comme traversé de ces rayons invisibles qui d'ailleurs, si on y réfléchit un peu, ont une puissance inouïe. Hein, le rayon de lumière que vous voyez se poser sur tel feuillage a traversé des milliards de kilomètres avant d'arriver jusqu'à vous. Il est le lien invisible entre le soleil et vous. Et cette lumière qui n'attend, pourrait-on dire, qu'un objet pour se poser sur elle, elle est pour les physiciens, on le sait, à la fois un déplacement de photons et puis un rayonnement. Elle est à la fois corpusculaire et énergétique. Elle a une nature mystérieuse. Elle a une vitesse indépassable. Bref, ce qui est entre le soleil et moi, n'est-ce pas, a une réalité, une densité d'être extraordinaire, alors même qu'il semble qu'il n'y a rien entre le soleil et nous. Ainsi, la lumière pourrait être une image, et plus qu'une image d'ailleurs, mais un symbole, un signe, des relations qui lie et relie entre eux tous les êtres. Car ce que je viens de dire du lien entre le soleil et nous, malgré la distance et même la séparation, on pourrait le dire ô combien aussi du regard que nous échangeons. Nous sommes des êtres distincts et chacun de nous est à sa place et chacun de nous est lui-même. Et pourtant, lorsque deux êtres se regardent, et à plus forte raison lorsque deux êtres s'aiment, ils passent entre eux cette mystérieuse réalité, invisible, impalpable, et pourtant combien réelle, de l'amour. Et cet amour est tellement quelque chose, une sorte de mystérieux troisième, que s'il vient à mourir, ou s'il vient à s'effacer, à disparaître, eh bien, chacun des deux êtres se sent comme privé d'une part de lui-même et peut-être même en mourra. Les relations nous font vivre, les relations ont de l'être, les relations ont peut-être encore plus d'être que les êtres. Que serions-nous sans les relations qui nous lient les uns aux autres, qui nous relient à l'univers entier? J'ai voulu développer un tout petit peu ce qui est, vous le vérifierez tout à l'heure, le titre même de ma thèse et de l'idée directrice de la philosophie de Lanza del Vasto, la relation infinie. J'ai voulu développer ce point parce que, encore une fois, l'enfant de 5-6 ans, au témoignage de Lanza del Vasto lui-même, eut cette impression, cette certitude, que tout se tient, que tout est lié, et que non seulement tout est lié, mais les liens même des êtres les font être. J'y reviendrai. Lanza a deux frères, et plus spécialement l'un d'entre eux, Lorenzo, sera un ami cher, un compagnon de pensée pendant de longues années. Les deux jeunes hommes, échangeront, partageront leurs intuitions philosophiques. Mais Lanza a certainement, plus que ses deux frères, la vocation philosophique, et ses études secondaires à Paris, au lycée Condorcet, montrent en lui un garçon plein de talent. Et déjà un poète d'ailleurs, on publie ses vers dans le journal du lycée, puis un petit peu autour. Il est déjà connu, il a 15, 16, 17 ans comme un talent prometteur. La famille a voyagé, comme vous le devinez, d'Italie en France. Son père était italien, je l'ai dit, sa mère était anversoise. Sa préceptrice était anglaise, donc Lanza très jeune est trilingue, et plus tard dans ses voyages à travers le monde, il fera des conférences dans au moins 4 langues, avec une aisance étonnante parce que non seulement il parle ces langues, mais il écrit dans ces langues. Donc le côté international du personnage, qui le rend actuel d'ailleurs, le côté européen, vous explique que, bon, il passe d'une langue à l'autre, et en français, qui va être sa langue d'écrivain, qui va être aussi sa langue de poète principale, il découvre en terminale la philosophie. Mais avec une liberté qui peut-être va vous surprendre, il fréquente à ce moment-là les auteurs et les penseurs les plus farouchement hostiles à la foi chrétienne. Il a un côté provocateur. Et bien que sa famille, évidemment, fût chrétienne, et son éducation aussi, il est dans ses années de jeunesse, assez violemment anticlérical. Il se réclame d'un athéisme, ou du moins d'un agnosticisme assez, assez affirmé. Et donc, il va chercher du côté d'Auguste Comte, pas spécialement chrétien, n'est-ce pas, comme penseur du XIXe siècle, penseur athée, du côté de Spinoza au XVIIe siècle, c'est un peu dans la même veine, et puis du côté, alors plus proche de nous peut-être, de Freud, on est à ce moment-là dans les débats autour de l'évolutionnisme, et donc il prend un malin plaisir à agiter les thèses de Darwin au moment où l'Église ne les appréciait pas tellement. Bref, sur le plan aussi artistique, esthétique, c'est un garçon qui se plaît à choquer, à écrire des vers un petit peu libertins, tout en restant, je le crois, et on peut le croire, un pur de cœur. Et donc, une sorte de quête spirituelle derrière ce côté un petit peu esthète et provocateur, s'amorce par la philosophie. Il a 20 ans, Il veut poursuivre des études de philosophie. Il revient en Italie, à Florence, puis à Pise, où, pendant 7 ans à peu près, il va étudier jusqu'à une thèse de philosophie, une thèse de doctorat qu'il soutient en 1928. Ces années-là étant essentielles de beaucoup de points de vue. D'abord du point de vue intellectuel, parce que la grande intuition dont j'ai parlé tout à l'heure, Lanza del Vasto veut désormais lui donner forme. Il veut lui donner une force aussi philosophique. Et d'ailleurs, sa thèse de doctorat, tout naturellement, portera sur ce sujet. Elle aura pour titre « Les approches de la Trinité spirituelle ». Trinité étant à entendre ici au sens relationnel, n'est-ce pas ? Une relation, c'est une triade de deux éléments reliés par un troisième. Il va travailler sur cette idée directrice de façon acharnée, avec la conviction, il le dit d'ailleurs dans ses carnets intimes que j'ai pu étudier, et traduire et déchiffrer pendant des années, il dit que cette œuvre est tellement l'œuvre de sa vie qu'il souhaite mourir après l'avoir écrite. Donc il y donne toutes ses forces. Mais en même temps, et vous l'avez deviné, il est artiste. Et germe en lui, ou plutôt se confirme en lui, le goût pour l'écriture poétique, mais aussi, et autour de la poésie, à partir d'elle, pour tous les autres arts que j'évoquais tout à l'heure. Il va avoir une expérience et un sens aigu de la matière. Il sera orfèvre. Il sera sculpteur sur bois. Il travaillera aussi d'autres matières rares comme l'ivoire. Il met la main, si j'ose dire, à la pâte, et ce rapport à la matière vous rappelle ce que je vous disais au début d'un équilibre et d'un contraste. C'est un homme qui est dans la plus haute spéculation métaphysique. Et j'aime autant vous dire que dans mon travail de thèse, j'ai dû rédiger des chapitres sur l'espace, le temps, l'être, enfin les concepts les plus abstraits, qui sont de très haute teneur. Et en même temps, il a une sensibilité extrême au corps, et à la chair, aux matières, à la beauté, à l'architecture par exemple. Il faut dire vivant à Florence et à Pise, il a une espèce de fascination pour ces villes, pour la Renaissance italienne, la première Renaissance surtout, et ses grands représentants. Il est, j'ose dire lui-même, comme à cheval entre le Moyen-Âge et le début de la Renaissance. Vous voyez, il a quelque chose de médiéval. C'est du grand style qu'on retrouve d'ailleurs dans son écriture et dans tous les aspects de sa personne. Et donc l'aspect esthétique contrebalance et en même temps équilibre, heureusement, l'aspect spéculatif, l'aspect intellectuel. Mais il y a comme une oscillation dans ces années-là. Qu'est-ce qui va l'emporter ? Le philosophe, l'artiste. C'est une époque aussi de grandes amitiés, amitiés avec des peintres d'ailleurs, et vous découvrirez dans l'exposition plusieurs tableaux qui ont été faits de lui par un homme de grand talent d'ailleurs, un des représentants de la peinture italienne reconnue comme telle aujourd'hui de l'époque, qui est Giovanni Costetti. Un autre peintre, ça c'est pour la petite histoire, mais ça vous dit un peu le personnage, Giovanni Acquaviva, avec qui Lanza avait sympathisé, se trouvait, lui, embarqué dans des études de droit par la volonté de ses parents, et des études pour lesquelles il n'avait aucun goût. Et voilà, le moment fatidique arrive, il lui faut rédiger sa thèse de droit. Et Lanza lui dit, je sais que tu n'en as pas envie, alors écoute, faisons un marché, je te fais ta thèse, et tu me fais un tableau. Et de fait, Acquaviva peindra plusieurs d'ailleurs portraits de Lanza. Et en 1925, Lanza rédige une thèse de droit sous le nom d'Acquaviva, ou plutôt les deux comparses signent l'un et l'autre. C'est son premier écrit universitaire, ça s'appelle « Une conception de l'éthique et du droit ». Vous voyez, préoccupation morale, j'y reviendrai. Voilà, encore une fois, polyvalence de ses talents. La thèse est soutenue, mais entre-temps, et je voudrais m'attarder un tout petit peu là-dessus, ces années ont été décisives aussi surtout sur le plan spirituel. Nous savons d'où il est parti. Eh bien, la grâce travaille cet homme, un peu comme un saint Augustin, n'est-ce pas, dont on sait qu'il n'est pas devenu chrétien en un jour. Ainsi, pour Lanza del Vasto, l'intuition relationnelle, trinitaire, que j'évoquais tout à l'heure, qui n'était pas reliée directement au mystère de la Trinité chrétienne au départ, c'était philosophique, va peu à peu chez lui se déployer dans une sorte de contemplation éblouie du mystère chrétien, du Dieu chrétien, Père, Fils et Saint-Esprit. Il raconte cela, mais j'aurai pas le temps de vous le lire, dans ses viatiques, et plus particulièrement dans un des petits cahiers ou carnets publié dans les années 70, qu'il a intitulé « La conversion par contrainte logique ». C'est un titre fort. Que se passe-t-il? Nous sommes en fin 1925, il étudie à Pise, et un de ses amis, très croyant, lui dit « As-tu lu saint Thomas d'Aquin ?» Alors, la question était un peu piquante, parce qu'il se trouve que Lanza del Vasto, par sa famille, descend, n'est-ce pas, de la lignée de saint Thomas d'Aquin, rien que ça. Mais, première réponse, il dit, mais qui lit encore saint Thomas d'Aquin? Et l'autre insiste, tu as tort, tu devrais au moins regarder ce très grand penseur. Et un peu piqué au vif, quelques temps plus tard, Lanza, dans la bibliothèque de Pise, ouvre un livre de saint Thomas d'Aquin et il découvre cette idée lumineuse que les personnes divines en Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, sont appelées par Thomas d'Aquin et par toute la scolastique relations substantielles. Les personnes de la Trinité sont des relations personnifiées, si vous voulez, des relations en personne. Car le Père, pour vous faire comprendre cette idée qui est très simple, n'est évidemment père que dans la mesure où il a un fils. Et le fils n'est évidemment fils que dans la mesure où il a un père. Et l'Esprit Saint, qui est, dira saint Augustin, le lien, le nœud d'amour, le souffle commun et personnel du Père et du Fils, est évidemment éminemment leur relation. Ainsi, ce que Lanza avait pensé et conçu comme en dehors du mystère chrétien au départ, trouve son sommet et sa source, bien sûr, dans le mystère chrétien de la Trinité. Je vous lis juste quelques lignes de ce récit de conversion qui occupe les dernières pages de ce petit livre. De retour à Pise, j'allais droit à la bibliothèque. Je m'assis à table devant De Trinitate. Je me recueillis un moment avant d'ouvrir le livre, puis je l'ouvris au hasard et je lus. Le texte qu'il a lu d'ailleurs est un peu mystérieux et difficile à retrouver, mais on voit très bien l'idée. Il poursuit. Mes yeux se vidèrent. Je me vidais de toute pensée, de tout sentiment, de tout pouvoir de bouger. Étourdi sous un coup de tonnerre, de ceux qui tournent, roulent et remuent dans les cavernes du ciel. Puis peu à peu la parole me revint et elle dit, cette relation absolue, cette relation infinie, on pourrait dire aussi, je la connais, c'est la relation de la substance à la forme dans la vérité. Ça, c'est le langage conceptuel. Façon moins directe, moins vivante, moins vraie de dire relation du Père au Fils dans le Saint-Esprit. Dieu, Dieu, Dieu vivant, Dieu de vérité. On pense à Saint-Augustin, je disais, on pense à Pascal aussi dans sa nuit de feu, n'est-ce pas ? Dieu de vérité, Dieu vérité vivante. Non celui que je pense, mais celui qui se pense et me pense. Non un concept, si haut, si clair, si universel qu'il soit, mais un vivant, évident et mystérieux comme tous les vivants, personnel, intime, profond, plus proche de moi que moi, terriblement proche, Dieu de mes pères, pardon, ô pardon, Dieu de bonté, de puissance et de gloire, aie pitié. Voilà une conversion radicale, certainement dans l'instant où Lanza l'a vécu, radicale aussi dans le récit qui nous la rapporte, mais qui va mettre quelque temps encore à se déployer dans l'existence de ce jeune homme qui se cherche encore. L'axe est trouvé, mais il va falloir que tout le reste s'ordonne, n'est-ce pas, autour de cette direction. La thèse est soutenue, elle a un peu surpris le jury, car, pour vous le dire au passage, il n'y a pas une note de bas de page dans cette thèse universitaire. Il y a très peu de références à des philosophes connus. C'est du Lanza. Le directeur de thèse, d'ailleurs, un peu inquiet, avait supplié le jeune doctorant de rajouter quelque chose à la thèse comme telle, et donc, grand seigneur, Lanza avait fait un appendice critique dans lequel il traitait de Descartes, de Kant et de Hegel, de façon très critique d'ailleurs, bon, pour montrer que quand même il connaissait. Donc le jury, bien qu'avec quelques stupéfactions, découvre cette grande pensée, en se demandant d'ailleurs comment un si jeune homme a pu avoir une vision du monde aussi complète, accorde le doctorat. Lanza pourrait se dire, voilà, je peux mourir. Heureusement pour nous, il n'en sera rien. Et au contraire, peut-être piqué au vif par quelques remarques de tel ou tel universitaire savant, il dit, je vais refaire cette thèse. Je vais la réécrire. Et pendant presque 8 ans, il va remettre, n'est-ce pas, l'ouvrage sur le métier pour donner à ce système, à ce que j'appelle une cathédrale de pensée, sa forme définitive et aussi une forme conceptuelle tout à fait solide et tout à fait complète. D'où une nouvelle thèse à laquelle il travaille encore avec un acharnement dont sa correspondance témoigne. Il écrit à sa mère en particulier qui s'inquiète et qui lui dit gentiment « Mais qu'est-ce que tu vas faire ? Tu as déjà 33 ans, mon fils, et tu n'as plus beaucoup de cheveux. Il est temps pour toi de... » Mais il dit « Non, tu sais, je dois donner forme à cette grande pensée. » Et puis il découvre aussi, ou plutôt il fréquente dans ces années-là, de grands penseurs en Italie, des professeurs d'université à qui il fait découvrir son projet. Et puis, ça se passe, c'est en 1935 à peu près, et là, les écrits en portent la trace, puisque cette nouvelle thèse s'interrompt presque au milieu d'une phrase. Une phrase très difficile d'ailleurs, d'un chapitre très difficile sur l'espace et le temps. Lanza se dit, mais toute la philosophie du monde ne rendra jamais compte de l'existence d'une mouche. C'est-à-dire du réel, dans son infinie complexité. On pourra écrire des bibliothèques entières, ça reste des mots, des pensées. Et Lanza se fait pauvre, se fait pèlerin, prend la route, se fait, osons dire, vagabond, chercheur, de vérité, de réalité aussi, sur les routes de la Méditerranée. Il va entreprendre plusieurs voyages. Il va traverser l'Italie du nord au sud, par exemple, à pied, jusqu'à Bari, du côté de sa ville natale. Il va rédiger, et je vous recommande ce livre, un petit chef-d'œuvre qui s'intitule « Principes et préceptes du retour à l'évidence ». J'ai lu ce livre, j'avais 15 ans, et j'en suis pas sorti indemne. C'est un manuel de vagabondage ascétique, selon un autre titre qui lui a été donné, et sous forme de petites pensées très courtes, Lanza nous fait partager son expérience de pèlerin, chercheur de Dieu. Une édition récente, peut-être le trouverez-vous sous ce titre, le titre a été un petit peu changé, s'appelle « Éloge de la vie simple ». Je préférais le titre initial. Mais je veux, disait Lanza dans ces années-là, mettre mes pas dans les pas de ma pensée. Je veux toucher avec mes mains ce que mon intelligence a vu. Et je vous disais que tout à l'heure que cet homme a cherché à s'unifier. Ça y est, cette fois-ci, c'est en route. Lanza ne sait pas très bien où va le conduire cette marche, mais il s'est mis en marche. Il n'est plus seulement d'un côté l'artiste et de l'autre le philosophe, l'esthète et l'intellectuel, n'est-ce pas, jonglant en quelque sorte avec ses deux facultés, ses deux talents, son intelligence et sa sensibilité. Il est en train en tout cas de les unifier autour d'une troisième qui est la volonté. Et ce que j'évoque ici, c'est le schéma porteur de toute son anthropologie, de toute sa pensée, n'est-ce pas ? Il voit l'homme comme une triade, une trinité, chacun de nous. Dans cette triade des facultés est l'unité d'une triplicité, je ne sais pas comment dire, d'une multiplicité. En nous, il y a une intelligence, il y a une capacité de connaissance, de pensée, de réflexion, de calcul aussi. Malheur à ceux qui n'ont que ça, n'est-ce pas ? Et qui mettent tout au service de ça. Et puis il y a aussi, évidemment, une sensibilité dans toutes ces dimensions. Perception du monde, capacité aussi d'entrer en relation avec les autres êtres, capacité de créer du beau, dimension esthétique que j'évoquais tout à l'heure. Et les grands artistes, évidemment, sont comme immergés dans cette sensibilité, mais ils y perdent quelquefois la tête. Et le déséquilibre qu'un trop grand talent peut introduire peut faire la célébrité de quelqu'un, mais son malheur. Et puis il y a en nous, et pour Lanza del Vasto, c'est l'axe, c'est la colonne vertébrale, si vous voulez, de notre esprit, de notre personne, il y a une volonté qui est liée à une conscience morale, à une responsabilité. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais de ma vie ? J'ai une intelligence, j'ai une sensibilité, mais je suis une volonté. En termes modernes, on peut dire aussi une liberté. Et c'est là-dessus, chrétiennement, en tout cas nous le pensons et nous le croyons, que nous serons jugés. Pas sur notre quotient intellectuel, pas sur l'éclat de nos talents ou de nos sentiments, mais sur ce que nous avons librement voulu et ce au service de quoi nous avons mis tout ce que nous avions. Et comme vous le devinez, cette structure anthropologique, Lanza la vérifie en lui-même en quelque sorte. Il veut désormais donner à son existence le sens, la direction du bien, et pas seulement du vrai et du beau, pour employer ici une autre triade bien connue. Nous sommes à la fin des années 30, l'Europe, comme on le sait, se militarise, des bruits de bottes font déjà résonner les grandes avenues d'Allemagne et d'ailleurs, devant la montée de ces totalitarismes, Lanza cherche une lumière, un message. Et il l'entrevoit très loin de l'Europe, en Inde, dans la figure de Gandhi. Il a lu le livre de Romain Rolland et il se dit, cet homme-là est porteur d'un message, d'une vérité que nous chrétiens, nous avons oublié, que nous avons négligé. Cet homme-là, mieux que nous, incarne les béatitudes. Et Lanza prend son bâton de pèlerin et part pour l'Inde. Nous sommes à la fin de 1936, à la rencontre de Gandhi. Pas par exotisme, pas sur les chemins de Katmandou, n'est-ce pas ? Pas par fascination pour je ne sais quel mystique oriental, mais il l'écrit lui-même pour devenir meilleur chrétien. Et pour apprendre de Gandhi à serrer de plus près cet évangile qui nous a, nous, Europe chrétienne, éclairé pendant des siècles, mais peut-être que nous avons encore quelque chose à apprendre d'un non-chrétien sur des dimensions de l'amour. Il passera plus d'une année en Inde, qu'il traverse du sud vers le nord, de Ceylan jusqu'aux montagnes de l'Himalaya, avec à Varda au centre, c'est-à-dire dans l'ashram de Gandhi, de longs mois, à l'écoute de Gandhi. Et c'est vraiment le tournant de sa vie. Lanza se met, je disais, à l'école de Gandhi, qui le rebaptise d'ailleurs, ou plutôt qui lui donne un nouveau nom, Shantidas. Shantidas, serviteur de paix, fils de la paix. Et pour nous qui avons connu le personnage, c'était ainsi que nous le nommions, et dans sa communauté aussi. Je disais que le voyage se termine aux sources de l'Himalaya, ça donnera lieu à un chef-d'œuvre littéraire que vous connaissez peut-être, Le pèlerinage aux sources, son plus beau livre, où il raconte cet immense voyage qu'il fait en Inde et sa rencontre de Gandhi. Il rencontre aussi, je dois le dire, sans l'avoir vraiment cherché au départ, l'hindouisme. Et il pose sur cette religion, dans le pèlerinage aux sources, un regard admirable de bienveillance, de lucidité aussi. Il voit les limites, ou en tout cas les divergences, avec sa propre foi chrétienne, et en même temps les valeurs. Il découvre le yoga. Il est auprès d'un yogi pendant plusieurs mois également. Il en reçoit une certaine sagesse. Et puis, il est assez haut dans l'Himalaya, en retraite et en prière, lorsque, il le raconte comme cela du moins, il reçoit un appel divin. Il est certain que Dieu lui demande de retourner en Europe, alors qu'il serait bien resté en Inde, dit-il, et de fonder. De fonder quoi ? Il ne sait pas. Il ne sait pas et la voix divine ne le lui précise pas, de fonder quelque chose. Ce qu'il fait, retour en Europe, 1938, alors il va encore être pèlerin pendant de longs mois autour de la Méditerranée, il le sera à Rhodes, au mont Athos, en Turquie, en Libye, en Palestine. Il fait pèlerinage à Jérusalem, et puis la guerre, se déclenche. Il est en France, en zone libre au début, du côté de Marseille en particulier. Il y rencontre Simone Veil, la grande philosophe, avec qui il a des partages extrêmement profonds. Et Simone Veil lui dit, Lanza, vous portez un diamant aux multiples facettes. J'ai étudié d'ailleurs ces derniers temps certaines œuvres philosophiques, du moins de Simone Veil, pour découvrir avec certitude que Lanza l'a influencé. Le grand système philosophique dont je vous parlais tout à l'heure, sur lequel ils ont beaucoup partagé, on voit que Simone Veil l'avait dans l'oreille. Donc, Lanza patiente, que faire ? Il vit ces années de guerre comme une sorte de temps de maturation intérieure et en même temps de souffrance, parce que le message dont il est porteur, celui de la non-violence, il voit bien que l'Europe est en train de s'embraser en oubliant complètement ce que Gandhi essayait de faire, la petite voix intérieure, comme disait Gandhi, qu'il avait essayé de faire entendre. Alors il va faire une chose décisive, il va écrire le pèlerinage aux sources. Et il dit lui-même qu'il l'écrit un peu comme on lance une bouteille à la mer. C'est-à-dire qu'il dit, je ne dirai rien, j'écrirai et j'attendrai qu'on vienne me demander. Et il attend. Des années. Très pauvrement, vivant très pauvrement, continuant à chercher intérieurement à quoi cette voix intérieure, cette voix divine l'appelait, quel type de fondation devait en être. Nous sommes en 43, je crois, c'est à Marseille, deux jeunes hommes qui ont lu le Pèlerinage aux sources trouvent l'adresse de l'auteur, frappent à sa porte et lui disent « Et alors ? Et qu'est-ce qu'on fait ?» Premier compagnon. Un peu plus tard, à Paris, à partir de 44, Lanza est rejoint par un premier cercle d'auditeurs, de disciples. Il leur commente l'Évangile. Ça donnera lieu à un livre qui est publié aussi, « Commentaire de l'Évangile ». Mais le petit groupe ne sait pas encore quelle forme donner à ce message qui les rassemble et puis à ce sage aussi qui les rassemble. Et lui-même a plusieurs idées. Pour vous donner un exemple, il avait pensé fonder ce qu'il avait appelé l'ordre mendiant de la rouille. La rouille. Comme... D'abord parce que la couleur de la rouille est belle, n'est-ce pas ? Mais aussi parce que symboliquement, c'est ce qui attaque le métal, le fer. Et ce qu'il y a de plus dur finira par être rongé par la rouille, mais il faut du temps. Et puis, il voyait dans son imagination, hein, toujours dans ces années-là, quelque chose comme des petites équipes de témoins allant de ville en ville et puis invitant à un changement de vie radical. Lanza s'est dressé, osons le dire, contre un siècle de fer. Il a quand même traversé deux guerres mondiales, né en 1901, mort en 1981. Il sait ce qu'est la violence et la folie des hommes. Mais il pose aussi un regard critique, j'en reparlerai, sur le machinisme et sur cette espèce de machine à produire qui est devenue notre économie. Gigantesque système qui broie les humains. Alors voilà, l'ordre de la rouille, parmi d'autres idées, donnera naissance à, vous le savez sans doute, en 1948, la première communauté de l'Arche. Communauté rurale qui s'implantera en Charente-Maritime d'abord, à Tournier, frère de l'abbaye me disait ce matin qu'il y était allé il y a 60 ans et avait rencontré Lanza là-bas. Petite équipe donc, vie de ferme, travaux agricoles, vie extrêmement pauvre, en plus on est au lendemain de la guerre, témoignage de simplicité, on dirait aujourd'hui de sobriété, de simplicité heureuse, mais difficile, surtout que les gens qu'il avait rejoints étaient plutôt des citadins. Cette première expérience communautaire va durer 5 ans, à peu près, 6 ans. Et puis en 53 et 54 surtout, Lanza sent un nouvel appel à repartir pour l'Inde, où il va rencontrer, puisque Gandhi a été assassiné en 1948, l'année même de la fondation de l'Arche, il va rencontrer le successeur de Gandhi en Inde, qui s'appelait Vinoba, très peu connu en Occident, personnage extrêmement intéressant, admirable, qui sillonnait le sous-continent indien en invitant à des redistributions de terres, en invitant concrètement les riches à partager leurs terres et en donner une partie aux pauvres. Et qui faisait ça avec succès. Des millions d'hectares ont été redistribués grâce à l'action et la prédication de Vinoba. Eh bien, Lanza, en 1954, fait un nouveau pèlerinage en Inde, dans les pas, cette fois, de Vinoba. Pendant des mois, il va l'accompagner, se levant à 3 heures du matin, n'est-ce pas, voyageant jusqu'à l'aube, et puis arrivant dans un village, et là, Vinoba prenait la parole, convoquait le village, les riches, les pauvres, puis disait aux riches, « Toi, là, tu as combien d'hectares ?»« Tant d'hectares. »« Tu as combien d'enfants ?»« Tant. »« Tu as combien de fils ?»« Tant de fils. » Eh bien, tu vois, je t'annonce une bonne nouvelle, tu as un fils de plus. Tu vois, celui-là, c'est comme ton fils. Donc tu vas lui léguer une part de ce que tu lègueras à tes fils. Vinoba ou le nouveau pèlerinage, ce sera le livre que Lanza rédigera à son retour d'Inde. La communauté, à ce moment-là, se transplante, d'abord à Tourrette-sur-Loup, dans les Alpes-Maritimes, puis à Bolène, dans le Vaucluse, où elle va demeurer jusqu'en 65, à peu près. Là, cette communauté se structure. Lanza devient patriarche, au sens ni paternaliste, ni, à plus forte raison, sectaire ou quoi que ce soit de ce genre du mot. D'ailleurs, Lanza avait une très grande pudeur, un immense respect des personnes, rien d'un gourou. Mais bon, cette communauté est née de lui, il en est un peu le père, et il lui donne peu à peu forme, avec aussi les compagnons, puisque c'était leur nom, compagnons de l'Arche. Des familles le rejoignent. Des premières actions non violentes également sont menées à ce moment-là, car Lanza a toujours eu dans l'idée que l'Arche était à la fois un laboratoire de vie intérieure, de transformation personnelle, un peu à l'image d'un monastère, sauf que ça regroupait des familles et des célibataires, et aussi un lieu à partir duquel peuvent être menées des actions, des engagements.
Lanza del Vasto, 1901-1981, poète mystique et visionnaire. Vous venez de suivre la première partie de l'intervention de Daniel Vigne, président de l'Association des Amis de Lanza del Vasto, professeur à l'Institut catholique de Toulouse. La seconde et dernière partie de cette conférence sera diffusée sur notre antenne la semaine prochaine, même jour, même heure.